Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous fêtons aujourd'hui la Toussaint, c'est-à-dire tous ceux qui règnent avec Jésus-Christ, qui participent au banquet céleste avec Dieu. Et je crois que le sermon que je vais vous faire sur l'Eucharistie convient bien à la fête de la Toussaint, puisque l'Eucharistie, c'est finalement le banquet céleste. Évidemment, dire seulement cela, ce serait très réducteur, ou plutôt non, il faut qu'on comprenne bien ce qu'est le banquet céleste. L'Eucharistie est le sommet des sacrements, comme le sacrifice de la croix est le sommet de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Eucharistie est le sommet des sacrements. Tous les sacrements préparent à elle, nous font entrer dans la vie chrétienne qui s'achève dans sa perfection. La perfection, c'est l'union à Dieu. Et cette union à Dieu est commencée ici-bas et elle s'achève au ciel. Et le sacrement de l'Eucharistie est justement celui qui nous fait entrer dans cette union divine avec le Père et le Saint-Esprit. Il y a une grande difficulté, malgré tout, un véritable problème, pourrait-on dire, c'est que aujourd'hui, on ne comprend pas bien le rapport entre la communion et le sacrifice. On sépare le sacrement du sacrifice. Pour beaucoup de gens, le sacrement de l'Eucharistie, c'est la communion, et en plus, il y a le sacrifice de la messe. On comprend fort mal, saint Thomas d'Aquin d'une part, les catéchismes d'autre part, parce que nous n'avons plus le vrai sens de la vie chrétienne, nous n'allons plus à l'essentiel des choses. Et lorsque les catéchismes, parce que, vous voyez, le sacrement de l'Eucharistie est tellement riche et tellement mystérieux qu'il suppose une longue étude préalable dans les catéchismes. Il faut faire comprendre aux fidèles que ce qu'ils croient être du pain n'est plus du pain, malgré les apparences. Que ce qu'ils croient être du vin n'est plus du vin, malgré les apparences. Dans le sacrement de l'Eucharistie, le pain est devenu le corps de Jésus-Christ, le vin est devenu le sang de Jésus-Christ. Il faut leur expliquer que c'est le vrai sang et le vrai corps de Jésus-Christ, que ce ne sont pas des images, que ce ne sont pas des mémorials. Il faut leur expliquer que Jésus-Christ n'est pas présent avec le pain, ça c'est l'affirmation hérétique de Luther, mais que le corps de Jésus-Christ a pris la place du pain, que le sang de Jésus-Christ a pris la place du vin. C'est très important cela de le rappeler. On ne peut pas, dans un catéchisme, entrer directement dans le sens du mystère, sans avoir d'abord précisé ces choses-là, parce que sinon, les gens ne comprendront pas, ils ont besoin de monter toutes les marches en commençant par la première. Il y a une autre raison à cela, c'est que le catéchisme est préoccupé de donner un grand respect envers la présence réelle de Jésus-Christ dans la Sainte Hostie, et par conséquent va insister sur le fait que le Christ est vraiment présent, et puis, puisque nous le recevons à la communion, va insister sur les dispositions qui sont nécessaires pour bien communier, pour bien recevoir notre Seigneur, pour l'adorer, le respecter, pour profiter de la communion. Et alors à cause de cela, cette partie préalable, enfin, qui est déjà l'étude de l'Eucharistie, mais qui est l'étude de la présence réelle. Or, la présence réelle n'est pas l'Eucharistie. L'Eucharistie va au-delà de la présence réelle. Comme le Christ n'est pas la rédemption. Dire que le Christ est l'homme-Dieu ne suffit pas pour comprendre de la rédemption. Dire que l'Eucharistie contient le Christ vraiment présent, c'est tout à fait vrai et c'est absolument nécessaire de le rappeler, mais ça ne donne pas le sens de l'Eucharistie. Et alors je vous disais, aujourd'hui, on ne comprend plus ces choses-là. On lit un peu à la va-vite, on a perdu le sens théologique, on a surtout perdu le sens contemplatif. On n'ose pas, on n'a plus l'habitude d'entrer dans la vie intime de Dieu. On a presque l'impression, ça c'est un reste du jansénisme, mais le jansénisme lui-même avait une raison, qui était une perte de la profondeur du sens chrétien, qu'il est dangereux de parler d'intimité, de vie d'intimité avec Dieu, de parler d'amitié avec Dieu. Il faut rappeler que l'homme est tout petit, que le bon Dieu est très grand. Peut-être que le clergé ne sait plus non plus l'exprimer, l'expliquer, le mettre à la portée des fidèles. Je vous en ai déjà parlé de cela. Je reviens sur quelque chose que Mgr Lefebvre nous avait expliqué et qui lui tenait à cœur, de vous faire pénétrer dans la vie d'union intime de Dieu. Évidemment, tout le monde ne saisit pas cela, et c'est pourquoi, dans les épreuves actuelles de l'Église, il y a un si petit nombre de gens à avoir compris la réalité, et dans les épreuves de la Fraternité Saint-Pie-X, un si petit nombre de gens à avoir compris Mgr Lefebvre. Par conséquent, on insiste sur le fait que la communion vient donner des forces, alors que ce n'est pas le but de la communion. Le sacrement qui donne des forces, c'est la confirmation. Ou bien c'est le sacrement de pénitence. L'Eucharistie n'a pas pour but de donner des forces. On insiste également sur le fait que l'Eucharistie vient nourrir notre vie chrétienne, ce qui est très vrai, hein, ça c'est parfaitement vrai. Saint Thomas d'Aquin le dit. Mais on voit nourriture dans le sens d'une appropriation. C'est-à-dire que on voit le Christ qui nous donne des vertus, ce qui est vrai, et on ne voit que cela, et cela c'est faux. Parce que le sacrement qui donne la vertu, c'est essentiellement le sacrement du baptême. C'est lui, justement, qui nous donne les vertus, c'est-à-dire cette force, cette possibilité d'entrer en union avec Dieu. Union qui s'achève dans la communion. La conséquence est terrible. La conséquence est terrible, c'est que on n'ose plus voir l'union à Dieu. Le merleur du coup, d'une part, on n'entre pas dans la vie intime de Dieu, puis d'autre part, alors on prend la communion pour ce qu'elle nous donne, donc on se regarde soi-même, et je vous en ai déjà parlé, c'est la conception personnaliste de la vie chrétienne, et cela déborde sur toute la vie chrétienne. Le bon Dieu est là pour m'aider. La communion est là pour m'aider. L'essentiel, nous le verrons, l'essentiel dans la communion, c'est de mourir à nous-mêmes avec le Christ pour entrer dans l'amour de Dieu. C'est cela la communion. Évidemment, c'est mystérieux parce que mourir à soi-même, qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, dès qu'on contemple cette réalité, dès qu'on entre dans cette réalité, aussitôt on se rend compte qu'on a besoin d'être pardonné, qu'on a besoin de force, qu'on a besoin de vertu, et on les demande à Dieu. Mais ça, c'est une conséquence. C'est une conséquence. Et tout cela est ordonné à l'union à Dieu, à la communion, à l'intimité. Si on voit en premier l'aide que Dieu nous apporte, alors du coup, toute la vie chrétienne est vue comme une... Tous les rapports du chrétien avec Dieu sont vus sous un angle intéressé, il faut bien le dire. C'est cette inversion personnaliste, hein, qui regarde la personne avant de regarder Dieu et l'idéal commun, cette inversion personnaliste, notamment, emprisonne les traditionalistes. Ils vous affirment qu'ils ne peuvent pas se priver des sacrements parce qu'ils en ont besoin. Et quand ils parlent de besoin, c'est vraiment besoin au sens moderne du terme, comme j'ai besoin d'un vêtement pour ne pas avoir froid. C'est pas la conception du soldat qui dit « j'ai besoin d'une arme pour me battre et sauver ma patrie ». C'est pas ça. C'est beaucoup plus la conception « j'ai besoin d'un vêtement pour ne pas avoir froid ». Et même pour la nourriture, puisque saint Thomas prend l'exemple de la nourriture, aussitôt il précise il y a une grande différence entre la nourriture corporelle et la nourriture de l'Eucharistie, c'est que la nourriture corporelle, nous la digérons, nous la faisons nôtre, elle disparaît en nous, tandis que la nourriture de l'Eucharistie, c'est elle qui nous digère et c'est nous qui disparaissons en elle. Alors on peut parler de nourriture dans ce sens-là, ça n'est pas personnaliste. Mais si on parle de nourriture sans préciser les choses, on pense tout de suite à la nourriture corporelle qu'on digère, et puis là, ben, on tombe évidemment dans le personnalisme. Alors on a besoin du sacrement, on ne sait plus comment vivre sans le sacrement, et puis du coup, on en est amené à dire, ben, pourvu que je reçois notre Seigneur réellement présent dans l'hostie, je m'occupe pas du reste, les conditions ne sont pas les plus importantes, et puis le sens du sacrifice disparaît, le sens du bien commun disparaît, on ne pense plus à s'offrir et par conséquent on ne participe plus à la rédemption de l'Église avec le Christ. On perd l'esprit missionnaire, qui est une des grandes leçons du Christ sur la croix et une des grandes réalités dans laquelle nous entrons par la Sainte Eucharistie. L'Eucharistie fait de nous des missionnaires parce qu'elle fait de nous des amis de Dieu et que l'ami cherche à ce que son ami soit aimé, c'est-à-dire à étendre l'amitié et l'amour. Donc, c'est exprès que je ne vais pas vous donner en ce premier sermon les longues explications du catéchisme de Saint Pie X, parce que je pense que, excusez-moi de penser mal de vous, mais je crains que vous les compreniez mal et que vous vous noyiez. De même, je ne vous donnerai pas saint Thomas d'Aquin cette fois-ci, parce qu'il faudrait que je remonte jusqu'au mystère de la rédemption qu'il a étudié dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, et que nous avons déjà vu. Parce que donner saint Thomas d'Aquin sur le Saint-Sacrement, c'est-à-dire sur l'Eucharistie, sans donner la rédemption qui est présente à son esprit constamment, tout le temps, ce n'est vous donner qu'une moitié d'explication. Et encore la moitié la moins importante, la moins élevée. Je vais essayer aujourd'hui de vous donner le sens profond de l'Eucharistie, et une fois que vous aurez ce sens profond, alors nous pourrons contempler cette merveille que le bon Dieu a faite, à savoir un sacrement qui nous fait entrer dans le mystère. Donc, si vous voulez comprendre le sacrement de l'Eucharistie, il faut contempler notre Seigneur sur la croix. Je ne vous fais pas l'injure de vous rappeler que l'Eucharistie renouvelle le sacrifice de notre Seigneur sur la croix. D'habitude, on dit c'est la messe, voyez, et puis la communion c'est autre chose. Non, la conclusion de tout ce que je viens de vous dire, c'est que l'Eucharistie, c'est le sacrifice. Et le sacrifice, c'est l'Eucharistie. Il ne s'agit pas de dire que l'Eucharistie est à la fois une communion et un sacrifice, un sacrement et un sacrifice, comme s'il y avait deux réalités l'une à côté de l'autre. Ce sacrement est un sacrifice, c'est sa définition. Ce sacrifice est un sacrement, c'est sa définition. Pour bien comprendre donc l'Eucharistie, il faut contempler de nouveau pas seulement notre Seigneur en croix, ça nous l'avons déjà fait, mais la signification de la croix Pourquoi notre Seigneur est-il mort sur la croix? Que nous dit-il? Que fait-il? Où nous amène-t-il? Le sacrifice de la croix est à la fois la source de notre sanctification, donc l'Eucharistie va tirer son efficacité de la croix, et en même temps il est notre modèle. Donc c'est lui qu'il faut étudier. Or, le sacrifice de notre Seigneur nous montre deux choses. Tout d'abord, la totale appartenance de Christ à son Père, et deuxièmement, la nécessité de réparer pour le péché, de fuir le péché et de réparer. Je vous rappelle la définition du sacrifice qui a été donnée par saint Augustin et que saint Thomas d'Aquin a rappelé, et je vous l'ai donné, bien entendu, lorsque nous avons étudié la rédemption. Le sacrifice, c'est toute œuvre bonne qui nous fait entrer dans la sainte société du Père, du Fils et du Saint-Esprit, car là est la fin de notre vie, là est notre but. On ne peut pas aller au-delà. Et Mgr Lefebvre nous expliquait que le sacrifice, c'est donc l'union à Dieu. Sacrifier, c'est faire du sacré. Sacrifice, c'est faire du sacré. Comme bénéfice, c'est faire du bien. Maléfice, faire du mal. Orifice, faire une bouche, qui est par laquelle on entre. Le sacrifice, c'est faire du sacré. Sur la croix, nous voyons que le sacrifice, à cause du péché, a un aspect rédempteur. Mais nous ne voyons pas que cela. Lorsque notre Seigneur dit à son Père, « Père, je remets mon âme entre vos mains », ce n'est pas l'aspect rédempteur qu'il montre, c'est l'aspect union, offrande, charité, abandon total entre les mains du Père. C'est l'amour de Dieu. C'est la charité envers Dieu. Et c'est également, c'est pour ça qu'il a les bras grands ouverts sur la croix, le rassemblement de tous les hommes qu'il prend pour les donner à Dieu le Père dans cette charité dont il fait preuve dans le sacrifice, qui est la vie du sacrifice. Et en plus, vous avez, alors le deuxième aspect, l'effusion du sang de Jésus qui coule sur la croix et qui est le signe de toutes les grâces purifiantes et vivificatrices, vivifiantes. Or, ce sacrifice de la croix, en plus de sa signification, c'est-à-dire ce qu'il nous montre, il nous montre Jésus qui aime son Père, il nous montre Jésus qui se remet entre les mains du Père, il nous montre Jésus qui meurt à lui-même pour vivre avec le Père, il nous montre que le Christ nous prend pour nous faire entrer par sa mort et donc par notre mort à nous dans cet amour du Père. Il nous montre, je vous l'ai dit, que le sang nous rachète, mais il ne fait pas que montrer. Il est une source, il cause un effet, il est une cause. Il est efficace. Il attire, il n'attire pas seulement comme il est grand, comme vous avez un bonbon qui attire un enfant, ou comme vous avez un grand paysage qui attire un artiste. Il fait plus qu'attirer, il rend possible en nous ce qu'il signifie. Et c'est cela que nous aurons à voir la prochaine fois. Que l'Eucharistie est le sacrement par lequel le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ entre en nous. L'expression n'est pas bonne. L'Eucharistie est le sacrement par lequel nous entrons dans le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin pour cela d'être pris par la main. La très sainte Vierge, au pied de la croix, a parfaitement compris le sens du sacrifice de notre Seigneur. On imagine mal la sainte Vierge au pied de la croix ne penser qu'à elle en disant « Ah mon Jésus, donnez-moi de la force. Ah mon Jésus, donnez-moi de la vertu. Ah mon Jésus. » Non, elle se donne à lui. Elle va même plus loin d'ailleurs. Elle l'offre à Dieu le Père, parce qu'elle a très bien compris ce qu'il en est. Et quand la Sainte Vierge, après cela, participe à l'Eucharistie, eh bien, elle renouvelle sans difficulté ses sentiments au pied de la croix, et c'est cela que nous devons lui demander. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.